La science-fiction peut-elle être réaliste? Serait-ce un oxymore? Selon Darko Suvin, et je cite, « La science-fiction est un genre littéraire dont les conditions nécessaires et suffisantes sont la présence et l'interaction de la distanciation et de la cognition, et dont le principal procédé formel est un cadre imaginaire, différent du monde empirique de l'auteur. L'effet de distanciation est le principe qui différencie la science-fiction des principaux courants littéraires dits réalistes. La cognition la différencie du conte de fées qui n'utilise pas l'imagination pour comprendre les tendances de la réalité, mais comme fin en soi. La cognition n'implique pas seulement une réflexion de la réalité, mais aussi sur la réalité. » Ainsi, il y a un paradoxe inhérent à la lecture science-fictionnelle. Narrateur et narrateur ne partagent pas, a priori, le même cadre référentiel. Le lecteur est face à un monde variablement distancié auquel son encyclopédie, selon Umberto Eco, ne correspond pas. Il doit tenter de reconstruire ce que Richard Saint-Gelais nomme la xéno-encyclopédie du texte. Selon lui, plusieurs stratégies ont été adoptées par les auteurs pour en transmettre des éléments, allant d'un didactisme plus ou moins honteux à un pseudo-réalisme. Je le cite. Donc, dans ce dernier cas, le texte, plutôt que d'exposer, donc dans le pseudo-réalisme, le texte, plutôt que d'exposer et d'expliquer les particularités du monde fictif, les suppose déjà connus, aussi bien du narrateur que de ses narrateurs. Le résultat est la dissolution de fragments d'encyclopédie dans le récit. Ce réalisme n'est en fait qu'un pseudo-réalisme, non pas parce que les textes de science-fiction font référence à des entités fictives, en cela ils ne se distinguent pas des autres romans, mais bien parce que le traitement réaliste y affecte des encyclopédies imaginaires. Au fond, ce que Saint-Gelais dit avec Gérard Cordès et Marc Angenot, c'est que la science-fiction n'est pas plus fictive qu'un texte dit réaliste. Madame Bovary n'a pas plus existé que Spock. Ils sont tous deux des signes sans référent. La différence tiendrait à ce que le texte réaliste dissimule sa distanciation, alors que la science-fiction l'expose. Or, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de dévoiler la distanciation du texte réaliste, mais plutôt de révéler le réalisme dissimulé, sémiotisé, du texte apparemment distancié. Aussi fantaisiste soit le monde fictionnel, la science-fiction ne parle jamais vraiment d'extraterrestres ou du futur. Comme toute autre littérature, elle émerge d'un imaginaire social et ne pourra jamais en être autre chose que le reflet, même déformé. En effet, chaque société imagine à sa façon l'autre, l'ailleurs et l'avenir. Roger Bozzetto identifie un procédé emprunté à la peinture et utilisé en science-fiction qui, je pense, reflète bien son rapport au réel, l'anamorphose. Si dans une anamorphose, l'image semble déformée, il suffit d'adopter le bon point de vue pour établir l'illusion référentielle. De même, en science-fiction, ce que l'on perçoit comme des signes d'altérité peut aisément être reconstitué comme étant des éléments de l'imaginaire social. En fait, on pourrait dire que l'imaginaire social intersectionne avec les encyclopédies, xéno ou non, des lecteurs qui sont, selon Eco, je le cite, des structures semi-hiérarchisées, variables selon les communautés et couvrant des domaines aussi divers que l'histoire, la géographie, la culture, sans compter les savoirs techniques. Par exemple, dans le cycle de fondation d'Isaac Asimov, les vaisseaux nucléaires de 1950 deviennent gravitiques à la fin des années 80. A priori, le détail ne semble que souligner la distanciation du texte, comme le baromètre de Flaubert en désignait la proximité. Or, le changement ne peut être imputable à la xéno-encyclopédie puisqu'il n'a rien à voir avec la cohérence cognitive de ce monde, les deux romans se déroulant à la même époque. Il s'explique plutôt par une différence de vision de l'avenir et se révèle donc être une trace du réel. En 51, on imagine que le nucléaire jouera un rôle quotidien, alors que dans les années 80, il est synonyme d'apocalypse, comme dans le roman qui m'intéressera désormais. Publié en 81, Le silence de la cité est le premier roman de l'auteure franco-québécoise Élisabeth Von Arbourg. Il raconte l'histoire d'Elisa, un bébé éprouvette modifié génétiquement, capable de changer de sexe et de s'auto-régénérer. Elle vit dans une société technologiquement avancée où se sont réfugiés les plus chanceux des survivants d'une lointaine guerre nucléaire. Dernière résidente de la cité, elle décide de concevoir à partir de son ADN une nouvelle génération d'humains afin d'améliorer le sort des habitants extérieurs qui subissent diverses maladies génétiques. Voici comment ce monde fictionnel nous est décrit à travers les mots d'une enfant et de son créateur. Je cite « Les accidents nucléaires accumulés, les pollutions, les petites guerres partout et trop de gens et juste assez à manger, et la terre elle-même qui se fâche, les tremblements de terre, les volcans réveillés, les climats qui changent, les famines, les épidémies. Nous, dans les cités, nous sommes les dépositaires d'un trésor, les sciences, les arts et la sagesse de l'humanité. Toi et tes descendants, vous serez les gardiens, vous surveillerez les gens de l'extérieur et vous continuerez mes recherches. Quand nous aurons résolu le problème du trop-plein de filles et que les gens seront davantage prêts, dehors, nous leur donnerons le trésor des cités. » Cette citation rendue explicite par un didactisme honteux nous fournit plusieurs pistes, par exemple un effet d'accumulation des cataclysmes qui crée une impression globalement apocalyptique, les technologies de surveillance qui permettent le maintien d'une société ségrégée et d'importants problèmes démographiques. Avant d'aborder le texte davantage, voyons comment ces pistes résonnent dans l'imaginaire social de 1980. dans lequel j'ai identifié, pour reprendre les termes de Pierre Popovic, trois grands ensembles de représentations. Premièrement, il y a d'abord un catastrophisme teinté d'eschatologie qui englobe la course aux armements, le nucléaire civil et les catastrophes naturelles. Ensuite, il y a la démographie et la reproduction, et finalement, la cybernétique. La fiction qui structure le premier est l'Apocalypse et les deux autres, la création. D'abord, le premier ensemble. En 1980, le Bulletin of the Atomic Scientist, très sérieux, hein, écrit par de nombreux prix Nobel, publie son horloge annuelle de la fin du monde. Il est minuit moins 4, le plus près depuis 1953. Dans l'éditorial, on peut lire « The entire world is at a threshold. During the last decade, each year has seemed to bring us closer to a nuclear holocaust. So far, the new decade has seen this trend accelerating. » À la guerre froide, il faut ajouter l'accident de Three Mile Island en 1979 et la spectaculaire éruption de Mount St. Helens en 1980. Ces événements sont sans lien et ils sont pourtant tissés autant dans le roman que dans les journaux pour former une véritable fiction de fin du monde. Par exemple, en juin 80, sur la même page, se côtoient les derniers développements sur l'éruption volcanique et sur la fusion du cœur de la centrale. Et les métamorphoses se croisent. Par exemple, on évoque un champignon comme une bombe atomique, hein, à droite, en haut, en parlant du Mont Sainte-Hélène, qui fait la manchette pendant des mois, au point où on en fait même des jeux pour enfants, que vous voyez en bas, dans les journaux, publiés dans la presse. À propos de Three Mile Island, on fait référence au film de China Syndrome, que vous voyez à gauche, sorti plus tôt dans l'année, pour construire une fiction. Aussi, un photographe danois à droite s'inspire de la sirène de Copenhague pour en faire une victime du nucléaire. Aussi publié dans la presse. À regarder les titres, difficile d'avancer que le roman de Von Harbour fait référence à un monde non réel. Par exemple, le 6 avril 1979, la presse titre « Faudra-t-il évacuer la Terre? » Et le 31 mars, les radiations peuvent provoquer des modifications aux cellules. On imagine déjà une génération de mutants, ce qui m'amène à mon deuxième ensemble, la démographie. À propos de la démographie, mentionnons deux événements majeurs, la politique de l'enfant unique en Chine et la naissance du premier bébé éprouvette. La première s'inscrit dans une fiction, la surpopulation, apparue au 18e siècle avec Malthus, mais particulièrement vivante depuis Population Bomb de Paul Ehrlich en 68. En Chine, dès le début de la politique de l'enfant unique, on pouvait craindre les infanticides de fillettes, celles-ci étant considérées comme un fardeau. Or, un surplus de naissances féminines menant à des infanticides forme justement l'argument du silence dans la cité. L'autre élément est la naissance du premier bébé éprouvette le 25 juillet 1978. Cette nouvelle alimente les journalistes pendant des semaines. Dans la presse paraît une série d'articles « Miracle en éprouvette » au sujet du bébé in vitro, l'événement scientifique majeur qui a fait au cours des derniers mois la manchette de tous les journaux du monde. Ce récit de création devient rapidement multiple, comme si on était sur le point d'être envahi de bébés éprouvettes. On pourrait ajouter à cet ensemble le début des groupes transhumanistes comme Life Extension Foundation, fondé en 80, qui font la promotion du prolongement de la vie par des techniques décrites d'ailleurs par Von Harbour. Ainsi, la dichotomie qui émerge et qui est reproduite dans le roman oppose un Occident obsédé par ses méthodes artificielles de reproduction et de vie prolongée et la Chine et le reste du monde qui luttent contre la surpopulation. Ce qui nous amène au troisième ensemble de représentations, la cybernétique. Le texte de Von Harbour est traversé par différents êtres et systèmes cybernétiques. Et en effet, ces technologies se développent rapidement en 1980, et c'est à travers elles qu'on imagine l'avenir. Dans les journaux, on voit apparaître des entrefilets étranges annonçant un mariage rendu possible par un cerveau électronique, à gauche, ou encore l'apparition de robots policiers, à droite. Alors que la naissance de la télématique, remarquez particulièrement l'image à droite, fascine et effraie. Donc on voit le télétravail sur une plage... avec la télématique. Par exemple, en 78, la presse publie un dossier intitulé « Au seuil de l'ère électronique », dans lequel on se demande si l'informatique sera le vestibule de l'enfer ou l'antichambre du paradis. Texte illustré par des puces électroniques en gros plan aux allures d'insectes inquiétants. Ainsi, nous serions à un seuil historique, du moins c'est le récit qu'on se fait alors. Les romans tels que celui de Von Harbour ne font rien d'autre au fond. Je voudrais donc en aller plus directement au texte lui-même afin de voir de quelle façon il travaille cet imaginaire et est travaillé par lui. Après un très court chapitre focalisé sur le personnage d'Elisa enfant, dans lequel elle apprend que grand-père, un homme-machine qui s'occupe d'elle, est mortel, sans aucune autre donnée xéno-encyclopédique, hein, le premier chapitre est totalement réaliste, le second chapitre, focalisé sur Paul, son créateur, nous permet d'observer le travail du texte. C'est donc sur un assez long passage que je m'arrêterai maintenant. Celui-ci s'ouvre in media res sur un monde radicalement distancié dont on doit extrapoler le fonctionnement à partir des signes d'abord discrets. Je cite « La sentinelle n'essaie même pas de l'arrêter. Avec un cri étranglé, l'homme se jette par terre, la tête dans les bras. Sa lance heurte avec un bruit métallique la carcasse de pelleteuse près de laquelle il était embusqué. » Donc c'est comme ça que commence le chapitre 2. Dès cette première phrase, on comprend que ceux qui sont attaqués appartiennent à un groupe plutôt primitif et peu armé. La réaction initiale de la sentinelle est la peur et la fuite, et la seule arme mentionnée est une lance. Or, la mention soudaine de la carcasse de la pelleteuse est une indication pseudo-réaliste discrète. Si la sentinelle n'a qu'une lance et se cache derrière une ancienne pelleteuse, on comprend immédiatement que l'on se situe dans un contexte de retour à l'archaïque, à la suite d'une catastrophe, dont la nature est encore à déterminer. Mais l'encyclopédie préalable du lecteur de science-fiction et l'imaginaire social que je vous ai montré permettent de présumer qu'il s'agit d'un cataclysme nucléaire. C'est d'ailleurs un exemple similaire, La petite sorcière de René Beaulieu, aussi publié en 81 que Cid Saint-Gelais pour illustrer le pseudo-réalisme, puisque l'imaginaire social de l'époque, incluant l'encyclopédie du lecteur de science-fiction, est pétri de catastrophes nucléaires, le texte peut fonctionner comme un mécanisme paresseux. À propos du texte de Beaulieu, il écrit qu'un, je le cite, « lecteur un tant soit peu familier du genre peut rassembler les morceaux du puzzle. Superstitions, mutations, conditions de vie rudimentaires apparaissent comme les retombées textuelles d'un scénario qu'il est facile d'inférer, à savoir une histoire qui se déroule dans un monde dévasté par un cataclysme nucléaire. » Ce qui pourrait s'appliquer au roman de Von Harbour entièrement, dans lequel apparaissent les mêmes motifs. Ce récit du retour à une société primitive après un cataclysme semble faire partie intégrante de l'imaginaire social de 81. Continuons. Un chuintement sifflant, de l'eau qui s'évaporise au contact de braises, la lumière du feu s'éteint. Cela ne change rien à la vision infrarouge de l'Omac. Les formes des hommes sont toujours là, dressées, les armes à la main. Le phare frontal, pleine puissance, maintenant. Les hommes baissent leurs armes, encore aveuglés. Un de ceux qui se trouve à l'arrière, un homme assez âgé, s'avance et fait le signe de la soumission. Doucement, bien qu'il ne soit pas mauvais que ces Omacs aient la main un peu lourde. Le feu noyé dégage une vapeur épaisse, laser. La vapeur augmente brièvement, se dissipe, le bois de nouveau sec s'enflamme. On peut constater une dichotomie évidente entre ces hommes primitifs et leurs agresseurs grâce au champ sémantique du feu. Le feu des hommes primitifs, source de lumière et de chaleur, est immédiatement éteint, seule défense possible contre une telle menace. Mais un nouveau novum vient d'établir une distinction fondamentale, la vision infrarouge de l'Omac, puis plus loin son laser, deux technologies bien d'actualité en 81, puisque l'usage du laser s'est imposé à la fin des années 70 et celle des caméras infrarouges dans les années 60. Au feu primitif éteint qui ne permet plus de voir se substituent des technologies justement basées sur la lumière et la chaleur. La vision infrarouge permet de contrer la seule défense du groupe, soit la noirceur. La puissante lampe frontale permet de les aveugler afin de les rendre plus dociles par la peur. Et le laser permet de démontrer la puissance technologique en ravivant le feu noyé. Cette opposition entre des êtres au niveau technologique si radicalement différent pointe vers la structure sociale de ce monde. Une ségrégation raciale entre deux groupes hiérarchisés, dont l'un impose son pouvoir par la technologie sur l'autre. Si la mention du mot « omac », mot fiction encore indéterminé, joue le rôle de novum dans le texte, établissant la distanciation du monde fictif, difficile de prétendre que ce type de relation nous est étranger. On peut facilement y voir l'évocation d'une intervention militaire américaine ou russe au Vietnam ou en Afghanistan, qui venait d'ailleurs d'être envahie par l'URSS en 1981. Ou encore de relents d'un colonialisme qui se croit bienveillant en utilisant un discours emprunté au paradigme pédagogique et empreint de paternalisme, puisqu'il ne serait pas mauvais que ces omacs aient la main un peu lourde, tout à fait dans l'esprit d'une éducation punitive. La suite nous montre d'ailleurs que l'intérêt que porte l'habitant des cités sur le groupe les réduit au rang d'objet d'étude. Rassembler les enfants. Des femmes s'avancent, les épaules courbées, tirant et poussant les enfants qui s'accrochent à leur tunique. Trois garçons, apparemment normaux. Ces femelles du Nord ont un bon rendement. Mais combien de filles ont été éliminées? Et combien de naissances anormales? Le premier garçon pousse un cri de douleur et de surprise quand l'ongle tranchant de l'omac lui ouvre la peau du front. Le front lavé de deux des filles montre la coupure bien nette. Sur le front de la fille et du garçon qui reste, la blessure est déjà refermée. Un balayage rapide au scanner montre que les cellules sont en train de se reconstituer. Qui sont les parents de ces enfants? Un homme s'approche avec des cheveux tout blancs. Il est jeune cependant, guère plus de 25 ans. Dégénérescence chez le père? Il faudra surveiller ce trait. Il y a beaucoup d'éléments qui ici pointent vers une idéologie coloniale partiellement réinventée, passant d'une anthropobiologie à une approche génétique et épidémiologique, mais aussi tournée vers des problèmes de démographie. Le déséquilibre des naissances garçons-filles et les infanticides qui en résultent évoquent la Chine, les naissances anormales s'inscrivent dans un discours du nucléaire tératogène de l'époque et l'évocation d'une dégénérescence possible du père nous replonge dans l'eugénisme. Aussi, la peur d'un vieillissement prématuré et la volonté de surveiller ce trait s'inscrit dans un transhumanisme, et n'oublions pas que l'objectif de cette étude des populations est la récolte de gènes mutés pour la création d'une créature idéale, amenée à devenir père et mère de l'humanité. Mais pour en revenir au colonialisme réinventé, l'approche idéologique est également révélatrice d'un changement dans l'imaginaire social. Plutôt que d'imposer une gouvernance infantilisante supposément civilisatrice et alimentée par l'esclavagisme, il s'agit désormais d'une approche industrielle, puisque les populations ne sont pas prises en charge, elles sont plutôt utilisées au besoin, avec une grande violence et dans l'optique qu'elles en bénéficieront dans un avenir très éloigné, lorsqu'elles seront prêtes à recevoir les trésors des cités. Un autre élément qui permet au texte d'ancrer cette idéologie coloniale dans la fin du 20e siècle est l'interface technologique qui fait écran entre les deux groupes et rappelle ces drones qui font écran entre les soldats et le champ de bataille, et ce depuis leur utilisation au Vietnam. La suite du texte précise davantage le fonctionnement de cet interfaçage. Arrivé au Modex, Lomac attache l'homme et la femme sur leur siège, les endort et démarre. Paul enclenche l'automatique et se renverse en arrière avec un soupir tandis que les écrans s'éteignent. Il demeure un moment immobile dans le fin réseau de fils qui recouvre sa tête et son corps, puis détache une à une des électrodes. Les yeux du robot, le nez, les oreilles, la voix du robot, les mains du robot, ses jambes. Comme d'habitude, il se sent un peu vide, un peu mou, amputé de ce corps plus puissant que ne sera jamais le sien et dépourvu de sens qu'il ne possédera jamais. Si le Modex laisse supposer l'existence d'un moyen de transport sans pilote apparenté à un drone, cet extrait nous révèle surtout que Lomac est en fait un avatar robotisé contrôlé à distance par un scientifique, Paul, à l'abri dans sa cité. À un premier niveau, on peut y voir une référence au fantasme de la télématique, mais c'est surtout le rapport au réel, au corps et à la technologie qui est en jeu. Avec cet avatar robotique, l'interface se dédouble. D'une part, les primitifs sont devant un être mécanique qui dissimule son humanité pour mieux imposer son autorité. La puissance de cette machine et l'asymétrie de moyens qu'elle impose rend littéralement obsolescent et superflu l'humain, pour reprendre Anders et Arendt. Inversement, Paul n'a accès à la réalité extérieure que grâce à une interface homme-machine qui établit une équivalence entre son corps biologique et son corps machinique, décrit comme de simples prothèses interchangeables. Ainsi, devant un écran qui lui transmet des images du monde extérieur, comme pour un pilote de drone, chacun de ses organes moteurs et sensoriels sont connectés à des organes analogues dans le corps robotique, lui permettant d'agir sur le dehors tout en y demeurant étranger et distancié, encourageant la réification de ces spécimens. Malgré tout, Paul entretient avec eux un rapport ambigu. Si ses actions sont violentes, son regard demeure empreint d'autoréflexivité, d'une bienveillance qui nous ramène à une perspective anthropo-historico-colonialiste. Mon dernier extrait. Combien parmi les tribus croient vraiment que les Omaks sont des êtres surnaturels, les hommes-machines? Combien à la surface savent encore ce que signifie le nom de leurs ancêtres, plus perspicaces qu'eux, ont donné aux robots des cités souterraines? Plus perspicaces vraiment? Non, les tribus primitives d'aujourd'hui sont bien plus lucides. Elles voient la réalité du cauchemar matérialisé par les hommes du déclin. Elles voient la force brute au travers des déguisements technologiques, la volonté humaine de puissance élevée au statut de divinité. Les primitifs sont imbattables sur les questions spirituelles. Ils vont droit à l'essentiel. Ils vous sentent le symbole à 100 lieues. On comprend ici que ce sont les ancêtres des hommes de la surface qui ont choisi le terme « OMAC », contraction de « homme-machine ». Nous nous situons donc plusieurs générations après une catastrophe globale qui a mené à une régression du savoir. Aussi, nous apprenons que les primitifs vivent à la surface, alors que l'OMAC provient des cités souterraines. Ce futur imaginé en termes de vie archaïque, de surface versus vie technologique souterraine, provient d'un élément majeur de l'imaginaire social de la guerre froide, le scénario de guerre totale qui mène à la multiplication des abris antinucléaires, destinés à y survivre, mais surtout à préserver l'élite et le savoir. Il n'y a qu'à penser au plan du très enthousiaste Dr. Strangelove. D'ailleurs, cette ségrégation altitudinale, typique de la guerre froide, opère un renversement historique. À la fin du 19e, alors que le prolétariat se tue à la tâche dans les mines et que les bourgeois se prélassent dans les parcs de Londres, Wells imagine un futur dans lequel les habitants des souterrains seraient les descendants sauvages des prolétaires, alors que les descendants pacifiques des bourgeois deviendraient arboricoles. Sa vision du futur est donc l'extrapolation des structures sociales de son époque. De même chez Bonarbourg. Désormais, on imagine que dans un futur marqué par un cataclysme nucléaire, les dirigeants politiques, militaires, scientifiques et les quelques milliardaires qui avaient acheté leur place au prix fort, donc, trouveront refuge dans d'immenses abris souterraines déguisés en ville, dans les profondeurs protégées des radiations, alors que les autres, sans soutien technologique, régresseront vers une société plus primitive. Donc, à travers sa réflexion sur les rapports surface-souterrain primitif-technologique, Bonarbourg met en abîme l'anamorphose qu'est le texte de science-fiction pour son lecteur. Les citadins et les primitifs s'observent à travers une lentille déformante, ce qui résulte en un discours critique sur leur monde et le nôtre. Le questionnement sur la perspicacité et la sensibilité aux symboles des primitifs par Paul en révèle autant sur eux que sur lui, dont les observations sont sans doute en partie justes, mais reconduisent surtout un discours paternaliste, voire raciste et sexiste, sur les primitifs, très majoritairement des femmes, qui seraient plus intuitifs, donc près de l'animalité, et aurait ainsi accès à une vérité, celle qui sort de la bouche des enfants. Mais en affirmant que les primitifs croient que les omacs sont surnaturels parce qu'ils auraient l'intuition qu'ils incarnent plutôt la volonté humaine de puissance élevée au statut de divinité, comme dans la citation, Paul projette sur eux ses propres velléités démiurgiques, son inconscient coupable, tout comme nous regardons notre réalité déformée à travers l'anamorphose science-fictionnelle. Paul porte un regard critique sur son monde à travers les yeux des primitifs. On peut ainsi observer dans le jeu des points de vue une dichotomie entre deux paradigmes irréconciliables dans le cadre du récit. À la surface, la croissance dans le surnaturel fait de la technologie une manifestation magique auquel il faut se soumettre sans résistance, alors que sous terre, l'obsession pour une conception scientifique du monde transforme littéralement les hommes en machines tout aussi aliénées. Merci.